rentrer du Mishmaï au Kasher Oriental. J'ai réduit totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai fait une diplomatie au Kasher Oriental. Je pense qu'en se rencontrant les deux, je vais précisément trouver une position par rapport à ça.
Bonjour à tous et à toutes, merci d'être nombreux à l'écoute des paroles au tour du cœur. L'émission 100% interactive des radios catholiques qui vous donne la parole sans distinction, quel que soit le lieu de votre résidence sur la planète Terre. Ce vendredi 9 avril 2010, nous nous retrouvons avec vous, auditeurs des radios catholiques, pour parler de l'encadrement des jeunes. De plus en plus à travers le pays, les mouvements d'encadrement des jeunes semblent disparaître. L'escoutisme n'a plus les mêmes engouements d'il y a 20 ans. Les tiroirs ont disparu presque et les colonies de vacances sont devenues rares. Les espaces récréatifs ont disparu et quelques endroits de distraction qui existaient dans quelques villes sont laissés aux seuls tout petits. Les salles de jeunes et salles de lecture sont comptées au bout des doigts. Les salles de cinéma ont laissé la place aux salles consacrées aux films des violences et se mettant en exergue des obscénités. Dans ces conditions, Parole aux auditeurs vous donne la parole pour votre point de vue sur l'encadrement des jeunes. Comment expliquer cette situation? Comment en est-on arrivé là? Et quelles solutions préconisez-vous pour l'encadrement des jeunes? Vos réactions, témoignages, points de vue et propositions sont les bienvenus dans cette émission. Nous recevons dans ce studio M. Henri Mola. Il est conseiller pédagogique à l'école primaire Monseigneur Bokele Yale, Lusanga. Il est une institution qui s'est plus spécialisée dans l'encadrement des jeunes avec une expérience de plus de 20 ans. Parole aux auditeurs, sous la production de Titi Mputu et la mise en onde assurée par Mimi Kindou et Nicole Ngaka et à la supervision au micro Piro et la Mégie pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bienvenue à tous, fidèles auditeurs de Radio Capi. Nous nous consacrons à la jeunesse aujourd'hui dans l'émission Parole aux auditeurs. Comme je venais de le dire, on se rend de plus en plus compte qu'à travers le pays, les mouvements d'encadrement des jeunes qui autrefois ont fait la pluie et le beau temps ont tendance à disparaître. L'escoutisme aujourd'hui ne se compte qu'à bout des doigts dans quelques paroisses, les chiros, on n'en parle presque plus, les colonies de vacances n'existent presque pas. Les espaces récréatifs dans la ville de Kinshasa, on se rend bien compte que cela a tendance à attirer les tout petits, les enfants de l'école primaire, des fois même ceux qui ont moins de 10 ans. Mais les jeunes de 12 jusqu'à 18 ans, 17 ans, semblent être n'est pas, ils ne sont pas préoccupés par les espaces récréatifs, les salles de jeu, les salles de lecture, on ne sait plus si elles existent encore, les salles de projection des cinéma, des films dans plusieurs paroisses, dans plusieurs localités, ne semblent plus exister. Tous ces problèmes liés à l'encadrement des jeunes, nous en parlons avec vous aujourd'hui dans cette émission. Monsieur Henri Mola, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au studio des Radio Capi. Vous avez une expérience maintenant de près de 20 ans dans l'encadrement des jeunes. La première question, comment, à votre niveau, vous expliquez la situation, les tableaux que nous venons de dresser, ce manque d'engouement aujourd'hui à l'encadrement des jeunes, les mouvements associatifs d'encadrement des jeunes, ce manque d'engouement de ces mouvements, selon vous, à quoi peut-on attribuer cela?
À mon avis, si aujourd'hui il n'y a plus d'engouement dans l'encadrement des jeunes, si aujourd'hui il n'y a plus d'engouement dans la participation des jeunes aux mouvements tels que le scoutisme, la xaverie et que sais-je encore, c'est là par des années de la Deuxième République, quand le pouvoir en place avait jugé bon de remplacer tous ces mouvements par la JMPR. Et on a fonctionné ainsi, les jeunes étaient très politisé à l'époque. Maintenant, quand la JMPR est partie, on devrait maintenant reprendre le mouvement de l'encadrement de la jeunesse. Mais les églises, les écoles et l'État lui-même, qui étaient les organisateurs, ont démissionné. Alors, on n'offre plus à la jeunesse ce qui les intéresse. C'est pourquoi la jeunesse trouve mieux d'aller dans la rue, d'aller dans le Kouloula et comme ça.
C'est-à-dire que c'est depuis, on peut dire depuis les années 75, 76, 77,
que tout ce mouvement a commencé quand la politique s'est intéressée à la jeunesse, c'est ça?
Oui, c'est à partir de ces années-là. Parce que chaque mouvement d'encadrement de jeunesse qui était géré par les églises ou par d'autres ONG avait des objectifs à atteindre, avait une pédagogie et une philosophie. La GMPR est arrivée, on a fait table rase de tout. Maintenant, quand la GMPR s'est retirée, ces associations n'ont plus cherché qu'est-ce qu'il faut faire pour cette jeunesse qui était devenue très politisée, qui avait suivi les objectifs du GMPR, et les organisateurs n'ont pas trouvé mieux, alors ils ont laissé la jeunesse abandonnée.
Merci, M. Henri Moula. Nous allons cheminer avec vous dans cette émission, mais au téléphone, nous avons aussi le pasteur Serge Lomou. Pasteur, vous êtes directeur du département presbytérien de la jeunesse, ici dans la ville de Kinshasa. On va vous donner la parole après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Pasteur Serge Lomou, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot et la Magie.
On se rend compte aujourd'hui, comme venait de le dire Monsieur Henri Moula qui est ici au studio, qu'il n'y a plus d'engouement aujourd'hui dans l'accompagnement de jeunes. On ne sent plus encore cela. Il y avait les scoutismes, il y avait les kiros, il y avait des collines de vacances, il y avait des salles de jeux, des salles de cinéma, il y avait des salles de lecture. Aujourd'hui, on dirait que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Vous êtes les directeurs du département presbytérien de la jeunesse ici à Kinshasa. Comment vous expliquez d'abord ces manques d'engouement aujourd'hui à l'encadrement de jeunes?
Merci beaucoup pour la question. Je crois que le constat est réel. Il y a plusieurs facteurs qui concourent à cet état de choses. D'abord, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que M. Moula disait tout à l'heure. Les événements de 1977, lorsque le pouvoir de l'époque décide de dissoudre tous les autres mouvements de jeunesse pour les muer à un seul mouvement qu'on appelait la JMPR. Il faut souligner que même à cette époque, le fait de mettre en place la JMPR n'avait pas supprimé les activités des jeunes. Parce que à travers la JMPR, il y a eu des programmes d'encadrement de jeunes qui étaient assez adéquats à l'époque. Il faut souligner aussi que lorsqu'on a supprimé le mouvement de scouts à cette époque-là, on a créé ce qu'on appelait la jeunesse pionnière. Moi-même, j'en étais parti. Et donc, à travers la jeunesse pionnière, il y a eu quand même l'organisation des colonies de vacances et d'autres activités récréatives ou d'encadrement des jeunes. Il faut souligner par ailleurs que ce qui arrive, là je suis d'accord avec M. Moula, il s'agit de la politisation de jeunes. En fait, lorsqu'on regroupe depuis un certain temps, lorsqu'on regroupe les jeunes, ce n'est pas pour les encadrer pour leurs intérêts, ce n'est pas pour répondre à leurs besoins fondamentaux liés à l'épanouissement socio-culturel, mais c'est surtout parce qu'on veut les utiliser comme fer de lance pour des intérêts politiciens de certaines personnes. Il y a aujourd'hui plusieurs associations des jeunes, mais quand vous suivez derrière, les motivations sont pour promouvoir les candidatures de certaines personnes sur le plan politique. La deuxième chose, aujourd'hui, on ne met plus dans le budget de l'argent disponible pour soutenir ce genre d'activité parce que ça requiert de l'argent. Troisièmement, vous l'avez déjà peut-être dit, tous les espaces jadis réservés pour les activités récréatives, pour les activités d'encadrement des jeunes, ont été spoliés. Il y a même les écoles qui ont été spoliées. Il y a des terrains de football qui ont été spoliés. Il y a des centres de jeunes qui ont été spoliés, qui ne répondent plus à ces intérêts. Je vais donner deux exemples. Vous avez le carrefour des jeunes qui, aujourd'hui, encore partiellement, il faut dire, grâce à Dieu, continue à soutenir les activités des jeunes. Mais parce qu'il n'y a pas un financement pour appuyer ces activités, on est obligé de livrer ces centres à plusieurs autres activités pour essayer de trouver de l'argent pour les maintenir.
Parce que on vous garde en ligne, vous avez donné quelques raisons, on vous garde en ligne. Permettez aussi qu'on prenne Jean-Baptiste qui est ici à Kinshasa. Jean-Baptiste, bonjour, vous êtes scout, je crois bien.
Non, bonjour à tous. Moi, j'étais un ancien dirigeant à Tiro.
Ah, vous êtes un ancien dirigeant Kiro, mais ce mouvement Kiro aujourd'hui, il a disparu, Jean-Baptiste. Comment vous expliquez cela?
Les raisons ont été données par mon prédécesseur, qui a dit, comme je le disais tantôt dans mon email, qu'à partir déjà des années 75-76, le MPLA a avalé tous ces mouvements. Et il y avait même difficile à ce que les organisations, bien le mouvement de jeunesse chrétienne, ne puissent pas évoluer. Et après, quand la situation a changé, il n'y a personne de ces anciens dirigeants qui ont pu relancer les activités. Et l'environnement même n'a pas pu faciliter cette reprise. Mais le souci est resté dans tout ce qui était comme ancien Kiro, ancien Xaferi, pour relancer les activités. Mais il y a un fait aussi qu'il faudra relever, c'est que les meilleurs ou bien les anciens bons scouts Kiro ont déjà pris du poids, de l'âge. Ça fait longtemps qu'ils ont cessé avec ça. Mais là, pour une réadaptation avec l'environnement actuel, il faudra un certain recyclage, parce qu'on a perdu vraiment l'éthique de ce qu'était le mouvement de jeunesse dans le temps.
Je
m'arrête un peu là.
Voilà, donc, je vous donne la parole directement pour conclure vos propos, parce que maintenant il faut proposer. Mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Quelles sont les solutions concrètes que vous proposez pour qu'on puisse encadrer les jeunes? Parce que le constat tel que les tableaux a été dressé, on se rend compte que c'est très inquiétant. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez toute la déprivation qu'on observe aujourd'hui. Mais que faut-il faire aujourd'hui pour sauver les jeunes? Parce qu'ils ont quand même besoin d'être encadrés. Pour le moment, quelles sont vos propositions, Jean-Baptiste?
Les propositions sont celles-ci. Il faudra d'abord qu'on puisse composer avec le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui avait stoppé cet élan-là du mouvement de jeunesse. Vous voyez, dans d'autres pays, il y a le service militaire obligatoire. Dans le service militaire obligatoire, il y a cette initiation à la vie qu'on donne aux jeunes. Moi, je proposerais que l'État puisse s'y mettre en invitant les anciens scouts et kiros qui ont déjà cette base pour la formation ou l'encadrement des jeunes, et à partir de cet état général, tout le monde peut donner des idées pour qu'on puisse encore relancer ça.
Merci.
Et là, ce qui est encore bien, c'est de relancer ça avec les églises. Dans le temps, quand le scoutisme avait une mauvaise tendance, ou bien il y avait une incompréhension, c'est là où les catholiques, ou bien l'église catholique a repris avec les Xaferi, avec le mouvement de jeunesse ouvrière, avec le mouvement de jeunesse exigeantine. Si les églises sont intéressées, dans cet état général que je propose, c'est mieux aussi d'intéresser l'église. L'état, l'église, et nous, parents, si nous nous mettons, je crois qu'on peut récupérer cette situation.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pasteur Serge, nous allons revenir à vous avant de donner la parole à Pierrot, qui est à Goma, qui est même l'initiateur de ce sujet d'aujourd'hui. Nous allons vous donner la parole, Pierrot, mais nous allons rentrer pour terminer aussi avec le pasteur Serge. Pasteur, vous venez de suivre les propositions de Jean-Baptiste et qui pense qu'il faut relancer, mais en impliquant les églises. Vous êtes effectivement pasteur et vous êtes responsable du département des jeunes à l'église. En allant de votre expérience, quelles sont les propositions aujourd'hui que vous pouvez donner aux églises pour parvenir à relancer et à s'occuper de la jeunesse?
Je crois que j'épouse totalement les propositions de Jean-Baptiste, mais je voudrais aller au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin au niveau national d'avoir ce qu'on pourrait appeler une politique nationale en matière d'encadrement des jeunes, qui serait assortie d'un plan stratégique national d'encadrement des jeunes. Et les plans stratégiques recenseraient les besoins fondamentaux dans ce domaine et proposeraient des stratégies et même des domaines d'intervention et qui pourraient être chiffrés. On pourrait évaluer le besoin de manière chiffrée pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut exactement dans ce domaine. Et ça, c'est indispensable. Si on n'a pas de politique, si on n'a pas de plan stratégique national en matière de lutte contre l'encadrement des jeunes, tout ce que nous allons faire sera comme des épées dans l'eau. La deuxième chose, il faudrait que ce soit au niveau des églises ou au niveau de l'État, on comprenne qu'il faut investir pour la jeunesse, et investir pour la jeunesse suppose consacrer des lignes budgétaires dans les églises pour les encadrements, les activités d'encadrement des jeunes, parce que ça va payer. La troisième chose, je vais peut-être m'arrêter à ce niveau-là, c'est collaborer avec les organisations internationales qui ont quand même appuyé un certain nombre de programmes. Je vais citer l'UNFPA notamment, qui a appuyé le programme des centres des jeunes. Donc, il y a toute une expérience autour de ça. Il y a l'UNICEF qui avait financé à l'époque le programme de l'éducation aux compétences psychosociales, qui ont fait des preuves dans le domaine de l'encadrement des jeunes. Et donc, je propose à l'actuel ministre de la jeunesse et des sports de comprendre que l'encadrement de la jeunesse, ce n'est pas seulement le sport, mais il faut prendre l'affaire de manière globale, de réunir les experts, il y en a plusieurs, qui peuvent apporter leur contribution dans la réflexion. Et en ce qui nous concerne, tu as parlé de notre expérience, au niveau de notre église, nous avons élaboré ce qu'on a appelé les plans directeurs d'encadrement des jeunes, avec les jeunes eux-mêmes. On a passé une semaine internée quelque part à Kinkole pour réfléchir avec les jeunes sur un plan directeur d'encadrement des jeunes. Et c'est sous base de ces plans que nous menons les activités. Mais là encore, le problème, c'est le problème des moyens, parce que ces activités supposent un appui.
Voilà, merci beaucoup Pasteur Serge Lomou. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur du département presbytérien des jeunes, vous êtes ici à Kinshasa. Merci à vous, merci à Jean-Baptiste, vous qui avez aussi donné des lignes de conduite, et il faut un plan directeur national pour l'encadrement des jeunes. Merci à vous deux. Nous allons maintenant prendre Pierrot qui est à Goma et Jean-Claude qui est ici à Kinshasa, il est un ancien scout. Nous allons commencer avec vous Pierrot, bonjour.
Bonjour.
Pierrot, si vous est arrivé à cœur d'évoquer ces problèmes, quel est le tableau que vous dressez par rapport à l'encadrement des jeunes à Goma, ce qui a amené à ce que nous puissions débattre aujourd'hui sur les problèmes des jeunes? Quelle est la situation des jeunes aujourd'hui à Goma, là où vous vous retrouvez?
Bon, à Goma, la jeunesse n'est plus encadrée parce que les mouvements des jeunes ont disparu présentement. Alors on se retrouve devant les jeunes qui consomment trop de liquide, les jeunes qui ne partent plus à la messe, les jeunes qui sont vraiment désœuvrés. Donc c'est pourquoi nous avons pu mettre cette idée pour que la Diocapi puisse nous donner un espace d'échange avec les auditeurs. C'est un peu ça.
Ok, mais aujourd'hui, pourquoi vous n'encadrez, les jeunes ne sont pas encadrés? Vous êtes psychologue, vous êtes scout, je crois. Vous avez un peu l'expérience, n'est-ce pas, dans ce qui concerne l'encadrement des jeunes. Mais pourquoi aujourd'hui à Goma, les jeunes ne sont pas encadrés et ils sont abandonnés à eux-mêmes, comme vous l'avez remarqué?
Bon, cela est dû justement à ce que l'intervenant, l'invité a remonté de 1972, quand on avait supprimé tout le mouvement des jeunes, on les avait intégrés dans la JMPS. Pour nous, les scouts, ça c'était déjà une manière de dénaturer le mouvement scout. Dans les jeunes, c'est-à-dire d'écarter l'or du mouvement scout très loin des scouts. C'était ça, bien sûr. Alors voilà pourquoi le scoutisme a perdu sa valeur, a perdu sa vraie forme. Et aujourd'hui, il y a un scoutisme au rabais. Nous assistons à un scoutisme au rabais. Alors il faudra que l'État puisse venir en aide à ce mouvement. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la Fédération des scouts du Congo. Cette fédération existe aujourd'hui. Il faudra que l'État puisse arriver à financer, à subvenir au budget de cette association. Cela pourra peut-être relever encore le niveau du scoutisme, parce que le scoutisme a disparu presque chez nous, au nord qui vous.
Ok. Pierrot, mais si on reste un peu lié au scoutisme, tout le monde ne partage pas la philosophie du scoutisme. Et, au-delà du scoutisme, qu'est-ce que vous proposez pour l'encadrement des jeunes, par exemple, à Goma? Parce que tout le monde ne finira pas par adhérer à la philosophie du scoutisme. C'est-à-dire qu'il faut d'autres idées pour encadrer les jeunes. Quelles sont vos propositions aujourd'hui, par exemple, que vous pouvez donner à ceux qui sont à Goma pour encadrer les jeunes, avant qu'on puisse terminer avec vous?
Bon, ce que je peux donner, c'est surtout la même mise de l'État dans la jeunesse. Que l'État ne puisse pas seulement se limiter au seul département des sports, parce que nous tous, on n'est pas sportifs peut-être. Le sport ne peut pas être considéré comme la jeunesse en soi. Voilà pourquoi il faudra que l'État puisse prendre tous les départements, c'est-à-dire la jeunesse, les métiers, les mouvements des jeunes, le sport aussi, en considération, parce qu'aujourd'hui, il y a un penchant de l'État vers seulement le sport. C'est ce qui est mal. Donc l'État doit s'impliquer considérablement dans l'encadrement de la jeunesse en totalité. Je parle du football parce que c'est le mouvement que j'ai pu expérimenter longtemps.
Merci. Merci beaucoup, Pierrot. Vous êtes à Goma. Nous allons nous rentrer ici à Kinshasa avec Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Jean-Claude, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur, je vous suis.
Merci, ça nous fait plaisir d'avoir ceux qui ont encadré les jeunes. Vous aussi, vous avez participé au mouvement des scouts, vous avez encadré les jeunes, mais nous avons déjà évoqué les raisons pour lesquelles tous ces mouvements ont perdu leur efficacité. Mais en ce moment, nous voulons bien sûr donner des propositions, des sorties pour aider à ce que les jeunes soient encadrés au-delà du scoutisme, et au-delà des tirots, au-delà des colonies de vacances. Que faut-il faire encore aujourd'hui pour aider les jeunes et les encadrer, surtout comme on voit, on l'a dit, qu'ils sont abandonnés aujourd'hui, Jean-Claude?
Oui, j'ai suivi Pierrot qui parlait tout à l'heure pour les jeunes de Goma. Je voudrais d'emblée dire que nous avons travaillé, lorsqu'on est encore à l'université, sur les enfants de la rue, aussi sur la démobilisation des enfants soldats. C'est un problème aujourd'hui, ici au Congo, où il n'existe pratiquement pas de programme pour les jeunes. Donc, le scoutisme n'est pas seulement le seul mouvement qui puisse encadrer les jeunes. Mais au niveau de l'État, nous devons avoir un programme précis pour nos jeunes. Ça n'existe pratiquement pas chez nous. Donc c'est vraiment un problème à ce niveau-là. J'ai dit, j'ai été scout, en fait on est scout, on reste scout toute la vie. La philosophie reste dans la tête. Vous avez toute votre vie, vous êtes imprégné de cette morale que vous avez reçue dans les scouts. On n'oublie pas que l'un des articles de la loi scout qui dit les scouts est loyal en tout et met son honneur à mériter confiance, par exemple. Ça, c'est la vie. C'est notre vie de chaque jour. Nous vivons pour faire plaisir à tous ceux qui sont tout autour de nous. Donc, c'est cela qui doit rester dans la vie.
On peut terminer avec vous, Jean-Claude, parce qu'on a tendance tous à mettre tout cela à la responsabilité de l'État, mais on voit qu'il y a dans beaucoup de secteurs, il y a des organisations qui se sont, des sociétés civiles qui se sont développées, qui ont épaulé l'État dans beaucoup de secteurs. Mais pourquoi aussi dans l'encadrement des jeunes, on ne peut pas encourager beaucoup d'autres associations, oui, de la société civile qui peuvent aider à encadrer les jeunes?
C'est ce que vous êtes en train de dire. L'Église qui, autrefois, était un des partenaires de l'État, je pense qu'aujourd'hui, elle a démissionné. On n'en voit plus. Parce qu'on retrouvait, par exemple, on ne parlait que du scoutisme, on le trouvait presque dans toutes les églises catholiques. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus. Donc, on ne soutient plus cet encadrement des jeunes. Donc, l'Église doit revenir à cette ancienne action qui consistait à épauler l'État dans l'encadrement de la jeunesse.
Merci beaucoup, Jean-Claude, vous êtes à Kinshasa. L'Église doit revenir à sa mission aussi qu'elle avait, hein, de épauler l'État dans l'encadrement de la jeunesse. Merci de nous avoir appelé de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, on se penche aujourd'hui sur l'encadrement des jeunes. Que se passe-t-il dans votre milieu? Comment les jeunes sont encadrés dans votre milieu? Quelles sont les solutions que vous préconisez pour parvenir à un meilleur encadrement des jeunes? Nous vous donnons la parole, hein, pour vous exprimer, parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus à travers le pays, les mouvements d'encadrement des jeunes semblent disparaître. Il n'y a pas d'engouement aujourd'hui pour les colonies de vacances et d'autres organisations qui s'occupaient des jeunes. Que faut-il faire aujourd'hui pour encadrer les jeunes? Nous recevons dans ce studio M. Henri Mola. M. Henri Mola, bonjour. On vous a déjà reçu, on vous a déjà salué. Vous avez suivi les auditeurs qui sont revenus, ils ont présenté les tableaux du temps passé, les raisons pour lesquelles il y a eu cette baisse d'engouement à l'encadrement des jeunes. Mais nous allons maintenant parler de votre expérience au niveau de l'école Monseigneur Bokele Yale, Isanga. Ça fait 20 ans maintenant que vous vous occupez des jeunes. Il y a même des jeunes que vous avez envoyés aujourd'hui en Allemagne pour des pièces de théâtre et tout ça. Eu égard à tous ces problèmes, comment vous vous en prenez pour encadrer les jeunes et les maîtriser pendant autant d'années?
Je vais d'abord corriger. Nos jeunes sont allés en Suisse et en Allemagne.
En Suisse et en Allemagne.
Voilà. Nous avons une expérience de 20 ans. Nous sommes d'abord une école. Et tout le monde connaît la mission première de l'école. Dans cette mission première, il y a l'aspect encadrement ou éducation de la jeunesse. Nous avons les jeunes dans notre école de 7h30 à 13h. Les après-midi, ces enfants rentrent chez eux à la maison. À partir de ce moment-là, commence déjà le problème. Parce que la plupart des parents que nous avons travaillent. Parfois, papa travaille, maman travaille. Alors, l'enfant qui rentre à la maison, seul, est exposé à des dangers multiples. Au niveau de l'école, on a d'abord pensé organiser ce que nous appelons chez nous les activités parascolaires. C'est-à-dire chaque jour, les après-midi, à partir de 13h jusqu'à 15h, voire même 16h, les enfants qui les désirent restent à l'école et l'école met à leur disposition des encadreurs, des enseignants formés pour les encadrer dans le domaine sportif, dans la danse, dans l'initiation théâtrale, dans la chorégraphie, dans des cercles de réflexion. Chez nous, ça s'appelle Club UNESCO Tapori. Dans ces cercles de réflexion, les enfants restent pendant 1h30 en train de réfléchir sur tous les sujets d'actualité. Ils donnent leur point de vue et les encadrés sont là pour les orienter. Ça, c'est pendant l'année scolaire. Maintenant, pendant les vacances, nous organisons la colonie des vacances. Pendant 15 jours, les enfants de notre école et les enfants d'autres écoles sont pris en charge par notre école de 8h à 16h. Et pendant tout ce temps, ils sont sous la direction des encadreurs formés. J'insiste bien sur le mot encadreur formé.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser un enfant dans les mains de n'importe qui.
Il ne faut pas laisser un enfant entre les mains de n'importe qui. Il faut que celui qui encadre l'enfant soit d'abord un éducateur, un parent, un responsable. Sinon, il y a des déviations. Alors, qu'est-ce que nos enfants font pendant cette activité colonie de vacances? La première des choses, c'est l'évangélisation. Nous sommes une école de l'Église du Christ au Congo. Nous évangélisons ces enfants. Parce que pour chaque colonie, nous avons un thème qui se rapporte à un message biblique. Et le matin, quand les enfants arrivent, il y a le culte matinal, nous faisons passer le message. Ensuite, il y a l'activité du jour. Dans l'activité du jour, il y a du bricolage, ça peut être une excursion, ça peut être un jeu en plein air, un jeu de salle, ça peut être, il y a beaucoup d'activités, un rallye biblique, un rallye culturel. Donc les enfants sont toujours entre les mains des encadreurs. Mais là où il y a la réussite, c'est dans la préparation de cette activité. Nous ne faisons pas les choses au hasard. C'est-à-dire, pendant que nous sommes au mois d'avril, nous préparons la colonie qui doit se tenir au mois de juin. Nous faisons ce que nous appelons la préparation éloignée. Nous déterminons les thèmes, nous déterminons tout ce que nous allons faire comme activité dans les domaines de bricolage, dans les domaines ludiques, dans les excursions. Tout est bien déterminé. Et nous donnons aussi des responsabilités aux encadreurs.
Mmh. Voilà, merci. On va revenir à vous, Pasteur Jérémy, qui est à Bounia, et Mukendi, qui est ici dans la ville de Kinshasa. Ils ont suivi comment vous avez présenté l'organisation au sein de votre école. Jérémy, vous êtes à Bounia. Jérémy, bonjour.
Bonjour, Pierrot, l'ami, bonjour à tous les invités de la radio
Kinshasa. Merci à Bounia. Vous connaissez aussi des expériences comme celle que M. Henri Mola vient de nous présenter, des structures, des écoles qui s'occupent vraiment des jeunes, comme il vient de le présenter, ou bien à Bounia, vous avez une autre formule pour encadrer les jeunes, comme on parle aussi de l'encadrement des jeunes.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent pas se réunir pour discuter constamment un sujet quelconque. Les mouvements des jeunes à travers les colonies des vacances, des scoutismes ne sont plus observés ici dans la ville de Bounia. Et cela date depuis que l'époque post-tribale qui a eu lieu ici à Vitouri. Alors c'est à partir de ces jours-là que les jeunes n'ont pas accès à des sacres d'autres publics où ils font des études, où ils peuvent se du coup ils peuvent laisser des loisirs. Alors ici, le problème, c'est ça qui réside ici. Tous les jeunes, ce sont là, après de quoi. Nous avons la plupart des jeunes sont des chiens, les autres sont après des rires, les autres sont des brigands, tout cela, ils ne savent pas comment se réunir. Après, le grand problème qui réside ici, notre ministère, donc, de jeunesse, le ministère provincial, n'a critique pas le travail qu'on lui a donné. Moi, selon moi, de ma part, je voulais demander, est-ce qu'il ne sera pas bon que le ministère de la jeunesse s'applique dans les quatre aspects que les jeunes retrouvent les activités comme c'était auparavant? Est-ce que les choses
sont là? Merci, on a un problème de qualité des lignes avec vous. Jérémy, on vous a suivi, vous dites que la période qui a suivi les conflits à Bounia, à cette période, et tous ces conflits ont fait que les jeunes n'ont pas d'occasion pour se mettre ensemble pour discuter, mais vous préconisez qu'au niveau du ministère de la jeunesse, même le ministère provincial, puisse mettre l'accent sur l'encadrement des jeunes. Merci beaucoup, vous êtes à Bounia. On revient ici à Kinshasa avec M. Mukendi. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi les uns et les autres à Kinshasa, c'est là où même on s'est plaint que les jeunes de Kinshasa sont vraiment abandonnés à eux-mêmes, les jeunes sont devenus ceux qu'ils sont devenus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez ici à Kinshasa concrètement pour parvenir à mieux encadrer les jeunes?
Notre ami là de Monseigneur Boufélia, je pense qu'il m'a coupé l'herbe sous les pieds, hein, parce que c'est de ça que je voulais un peu parler, en quelque sorte. Vous voyez, la crise est pratiquement multiforme, elle est générale. Si, par exemple, déjà, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, il y a des écoles, dans chaque école, il y a au moins 3 ou 4 écoles qui fonctionnent. Ce qui fait que, le matin, il y a une école qui fonctionne, et l'après-midi, il y a une autre. Et les enfants n'ont pas cet espace-là. Quand ils vont à la maison, ils trouvent que leurs parents sont à la recherche de la vie. Ceux qui ont déjà la vie, ils cherchent à avoir plus de vie. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant arrive à la maison, il est abandonné, il va chercher à manger, il va se débrouiller pour nourrir aussi la famille là où il est. Ce qui fait qu'il n'a plus le temps d'être encadré en dehors des heures qu'il passe à l'école pour l'instruction. Ainsi donc, si par exemple à la fin de la secondaire, on pouvait créer d'autres écoles de façon qu'une école puisse avoir son établissement et puisse avoir le temps d'étudier d'abord pour l'instruction et d'avoir le temps d'être encadré en activité parascolaire comme il se fait là-bas à Bokeh. Je ne pense pas qu'au collège Bokeh-Léalé, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, je ne sais pas. Et c'est pas si là-bas, il y a plus de 2 écoles qui fonctionnent dans le même établissement. Je ne pense pas. Et ils ont le temps de faire ce qu'ils font là parce que ils peuvent travailler le matin et l'après-midi, la cour scolaire est libre et les salles sont aussi libres. Les deux. On a beaucoup tiré de boulets rouges sur le MPR et tout ça, mais le MPR n'est plus là. Le parti là n'est plus là. Moi, je pense qu'il faudrait aussi aujourd'hui un Kengo à la tête de comme procureur de la République. Autrefois, vous avez vu que ceux qui faisaient des chansons malsaines, tout ça, étaient poursuivis, les lois ont été et tout ça. Et aujourd'hui, les chansons malsaines, sont en train d'être diffusées à travers des radios et tout ça. Et les enfants suivent, ils entendent et... C'est difficile aujourd'hui de trouver des enfants qui s'intéressent. On a des films pour enfants, des chansons pour enfants, il n'y en a même plus. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les enfants sautent la jeunesse, ils partent de l'adolescence, ils sautent de la jeunesse, ils sont déjà adultes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu être encadrés. Faut-il encore que Kengo revienne comme procureur de la République, en général, pour... punir ceux qui font de mauvaises chansons? Faut-il qu'on trouve quel ministre de l'éducation ou de l'information pour interdire des programmes qui ne conviennent pas à la formation de la jeunesse? Pendant que nous parlons ici, combien de jeunes vous ont appelé? Combien de jeunes? Faut-il demander à chaque jeune, à chaque intervenant, dire son âge?
les jeunes eux-mêmes, de ce qui nous parlons là, ils ne sont pas intéressés.
Monsieur Mkendi, c'est pas parce que les jeunes, s'ils ne sont pas intéressés, c'est parce que personne ne leur propose autre chose. C'est ça notre préoccupation. Qu'est-ce que nous, les adultes, nous pouvons aujourd'hui proposer aux jeunes si on a tiré sur les impairs, c'est bien, on a tiré sur les uns et les autres, mais quand même, votre proposition, vous, parce que vous êtes parents, vous êtes adultes, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour qu'ils ne puissent pas se tourner ailleurs, aller se débrouiller pour avoir, pour combler leur vide, monsieur Mkendi?
Ma proposition à moi, c'est que d'abord les radios, comme votre chaîne là, les différentes chaînes, qui puissent d'abord avoir des programmes équilibrés, convenables. Comme par exemple, vous voyez Radio Capi, vous avez quand même de la musique, mais à quelle heure? De 20h à. Et les autres radios, vous sentez que c'est depuis 8h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, c'est de la musique, rien que de la musique. Mais. C'est ça, ils sont à la base de cette déperdition-là des jeunes. Hein? Si nous prions, nous parlons, tout ça, ça, c'est bien beau, mais on ne veut pas encadrer les jeunes. La musique a tout tête sur les chaînes de radio. Et... Non, moi, je pense qu'il faudrait qu'on revoie un peu, qu'on répasse un peu les différents programmes sur les chaînes de
voilà.
Télévision.
Merci beaucoup, M. Mkendi. Vous proposez que les médias s'impliquent dans la révision de leur programme. Emina, vous êtes en Bandaka. Emina, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Vous avez suivi monsieur Mkendi avant vous. Lui propose la révision du programme au niveau de médias qui doivent aussi se concentrer consacrer aussi à l'encadrement des jeunes. Vous, en Bandaka, qu'est-ce que vous proposez pour aider les jeunes qui sont en Bandaka à être encadrés comme il faut?
Oui, moi, je voulais d'abord intervenir en tant que jeune. La situation des jeunes dans la ville de Bandaka, ça commence à être amélioré à partir des différentes sensibilisations que nous sommes en train de faire pour l'encadrement des jeunes. Vous savez que ici en Bandaka, nous avons les catégories des jeunes. Il y a des jeunes, il y a des enfants abandonnés, les jeunes qui sont abandonnés, il y a les jeunes qui sont dans des différents riz, il y a même des chégués, il y a aussi les jeunes qui sont dans des différents écoles dans la ville de Bandaka. Mais le travail que nous sommes en train de faire, d'abord, l'encadrement, il faut qu'il y ait un objectif. Parce que l'encadrement ne peut pas se faire comme ça, sans objectif. Nous, dans notre structure, nous sommes en train de faire d'abord la réunification familiale pour les jeunes qui sont abandonnés. Et il y a aussi la réunification socio-professionnelle. Il y a des jeunes qui sont là, mais ils n'ont jamais étudié, mais ils sont là pour chercher comment est-ce qu'ils vont vivre. C'est la raison pour laquelle, par manque de moyens, nous sommes en train de demander les organisations qui font cette place en Bandaka pour essayer de nous aider pour l'encadrement de ces jeunes-là. Il y a aussi, on est en train de faire aussi l'encadrement psychosocial. Psychosocial des jeunes. Parce que les gens, on ne peut pas laisser les trucs comme ça, d'assister à être manipulé par la politique ou par les politiques. En tout cas, c'est pas bien. Mais ici, dans notre ville, l'encadrement des jeunes commence à être amélioré à partir des sensibilisations. La sensibilisation d'abord que nous sommes en train de faire.
Merci beaucoup, Emina. C'est une bonne expérience, hein, Mandaka. Courage, c'est que pour ce que vous êtes en train de faire. Merci de ces témoignages. Nous allons terminer cette partie avec Philippe Kétissé Kinshasa. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Philippe, bonjour.
Oui, bonjour. En fait, moi, mon intervention, je n'ai pas bien constat. Le constat, c'est que j'estime qu'il y a on peut scinder la catégorie de la jeunesse en deux parties. Il y a une jeunesse qui évolue dans un cadre familial et il y a une autre jeunesse qui évolue dans la rue. Mais essayons de parler de la jeunesse qui évolue dans un cadre familial. Est-ce que ces jeunes-là sont encouragés pour aller aller sur ces genres d'encadrement? Alors, j'estime que là aussi, il y a un problème. Peut-être que votre invité qui est sur le plateau va essayer de nous aider. Parce qu'il y a de ces églises-là qui font passer un message tel que, avec tout ce qu'il y a comme sorcellerie, phénomène enfant sorcier, il y a de ces parents-là qui hésitent à envoyer leurs enfants dans ces genres d'activités-là. Là, c'est un problème. Et de l'autre côté, ces enfants-là, un enfant qui a grandi et à qui on n'a jamais dit à la maison que voilà, si vous allez dans ce genre d'activité-là, voilà ce que vous pouvez tirer de là comme bénéfice. En fait, un enfant comme ça reste à la maison et en restant à la maison, les parents on peut se démissionner parce que ils n'ont plus le temps d'encadrer les enfants à la maison et ils vont se débrouiller par-ci par-là pour retourner à la maison en retard. Et là, ça pose un problème. Là, c'est pour ce qui concerne les enfants, en fait, qui évoluent dans la famille.
Philippe, allez-y rapidement, vous terminez par là rapidement.
Oui, pour les enfants qui évoluent dans la rue, là encore, le problème devient compliqué. Parce que là, il faut d'abord chercher d'abord à les récupérer de là, à les placer dans un cadre qui puisse permettre à ce qu'ils puissent recevoir ce genre de formation-là pour que on fasse de véritables citoyens dans l'avenir et de la nation. C'est un peu ça, mon point de vue.
Merci beaucoup, Philippe. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous allons donner la parole à notre invité tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Henri Mola, vous avez suivi les auditeurs. Mais est-ce que là, il y a un problème que Philippe vient de poser, c'est par rapport à la conscience que les parents peuvent avoir aux encadreurs pour confier leurs enfants entre les mains de l'encadreur. Est-ce qu'il vous arrive dans votre organisation de vous buter à ces problèmes? Est-ce que les parents vous facilitent la tâche? Et une deuxième question aussi, est-ce que vous avez déjà eu aussi à partager votre expérience avec d'autres structures, d'autres écoles, d'autres organisations ici à Kinshasa pour qu'ils puissent voir ce que vous faites et l'adaptent aussi à leur niveau?
Oui, pour la première partie de la question, nous sommes souvent butés à de telles difficultés. Voyez, comme l'a dit Philippe, il y a des parents qui, dans leurs églises, on leur parle souvent de la sorcellerie. Alors, ce genre de parents refusent que leurs enfants s'associent à d'autres enfants. Mais quand ils arrivent chez nous, j'ai bien insisté au départ que notre équipe d'encadreurs est formée vraiment des gens responsables. Nous avons un service que nous appelons service de momerie, il y a un service de médiation, il y a beaucoup de services. Alors, quand un tel parent arrive, nous lui expliquons le bien fondé de l'enfant de vivre avec les autres. Si on crée la sorcellerie et qu'on va souvent à l'église, il y a un paradoxe. On va à l'église parce que on sait qu'avec Jésus-Christ, on est vainqueur. Et pourquoi craindre encore que l'enfant soit ensorcelé par un ami avec qui il va jouer? Est-ce qu'on va enfermer l'enfant à tout moment dans la maison? Je ne pense pas. Nous rencontrons de tels problèmes et nous essayons de convaincre les parents. Et très souvent, nous réussissons. Pour la deuxième partie de la question, échanger notre expérience, oui. Quand nous organisons nos colonies de vacances, nous ne sommes pas seuls, seulement avec notre équipe d'encadreurs. Nous recevons aussi d'autres encadreurs qui viennent d'autres structures. Ils viennent apprendre comment nous organisons.
Et puis, la fois, ils ont aussi fait ça ailleurs. Vous avez assisté aussi comment ils ont amené l'expérience ailleurs.
Oui. Il y a, par exemple, au Mongafula, dans une paroisse catholique, ils sont arrivés chez nous pendant 2 ans pour voir comment nous faisons. Et après, quand ils ont organisé leur première colonie, ils nous ont invités, nous étions là, et nous avons vu que ça marche très bien.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, quel est le niveau de collaboration que vous avez avec l'État? Parce que depuis le début de cette émission, les gens ont accusé l'État. Est-ce que vous recevez aussi un appui ou bien une expertise auprès de l'État dans l'encadrement de jeunes quand vous êtes en train de travailler?
Bon, jusque-là, je peux dire non. Donc l'État, comme on l'a dit, a vraiment démissionné.
Vous n'avez aucun appui dans l'organisation, dans l'encadrement des jeunes
de l'État. Et si nous réussissons, parce que nous recevons un appui extérieur d'un organisme suisse, le DM, qui nous donne à peu près 4 à 5 000 dollars pour l'organisation, et il y a aussi la participation locale. Alors, on peut se dire que ça fait beaucoup d'argent. Mais ce que nous faisons aussi, ce que nous faisons nécessite vraiment de l'argent.
C'est-à-dire que l'encadrement des jeunes aujourd'hui demande aussi des moyens et des gros moyens.
Des moyens conséquents. Bien. L'aspect volonté, il faut d'abord qu'on ait la volonté, parce qu'on peut avoir de l'argent, si on n'a pas la volonté, on détourne cet argent. Il faut avoir le souci de la jeunesse. C'est dire, il faut que nous puissions faire quelque chose pour aider ces jeunes à devenir des citoyens utiles pour eux-mêmes d'abord et pour leur nation. Il y a notre devise de l'école, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir.
Oui.
Notre devise dit ceci, beaucoup de petites gens à beaucoup de petits endroits qui font beaucoup de petites choses peuvent changer la face du monde. Et nous croyons vraiment à cette devise. Nous avons commencé tout petit. Personne ne nous donnait la chance de réussir dans l'encadrement de la jeunesse. Donc, puisque nous nous disons chacun qu'on est des petites gens à des petits endroits, nous avons lutté et aujourd'hui, nous avons une grande expérience. Si notre troupe de théâtre est allée en Europe, c'est aussi grâce à l'encadrement de la jeunesse.
Voilà.
Nous avons reçu une invitation et nous sommes partis.
Voilà, ça dit qu'il faut, avant de donner la parole à Clément qui est à Kananga et Benjamin qui est à Isiro, je dis qu'il y a quatre choses pour réussir l'encadrement. Il faut la volonté, il faut avoir les soucis de la jeunesse, il faut avoir des moyens et aussi des gens formés qui peuvent encadrer les jeunes. Voilà les quatre choses. On donne la parole à Clément. Vous êtes à Kananga. Clément, bonjour.
Bonjour Clément. Je voudrais juste vous dire, quand même j'interviens à la deuxième partie de votre émission, vous dites que l'État congolais a des armées. Vous savez que dans la mission de l'État, parmi ses fonctions, il y a aussi la fonction publique. C'est-à-dire, l'État a cherché beaucoup de moyens pour essayer de pouvoir le divertissement de sa population.
Voilà, Clément.
Je veux citer que malheureusement, dans notre pays, nous avons constaté que l'État ne met pas de moyens conséquents pour encadrer la jeunesse.
Voilà, Clément, avant qu'on continue, dis-moi, il faudrait diminuer le volume de votre poste récepteur, hein, parce que ça dérange un tout petit peu. Et puis, je vais vous poser la question parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Tout le monde a accusé l'État depuis le début. Dites-moi un peu aujourd'hui à Kananga, si bon, l'État ne donne pas de moyens, est-ce qu'il faut abandonner les jeunes de Kananga sans qu'on puisse les encadrer? Il n'y a aucun effort qui peut être fait sans moyen de l'État pour encadrer les jeunes à Kananga aujourd'hui.
Les efforts, ce sont les efforts purement personnels, des petites associations par-ci par-là, parfois le bord de fonds internationaux qui interviennent avec leurs moyens. Mais les moyens qui sont détournés, entre guillemets, par les animateurs de l'État. C'est ce qui fait aussi mal. Nous voulons parfois en appeler à la volonté et surtout à l'honnêteté des dirigeants qui peuvent mettre la totalité de la volonté qui bénéficie pour encadrer la jeunesse à Kananga. Si vous venez aujourd'hui à Kananga, le cadre de jeunes n'existe plus. Il y a une catastrophe. Il n'y a pas aucune activité en rapport avec le développement des jeunes.
Merci Clément.
C'est que nous assistons parfois à une situation de délinquance juvénile.
Merci Clément. Je crois que c'est dans l'expérience de M. Henri Mola avec son équipe, on peut aussi faire quelque chose parce que je me rappelle aussi qu'il y a des gens qui l'ont fait dans d'autres provinces, hein, qui n'ont pas attendu que l'État puisse leur donner des moyens qui ont fait et l'État aussi, on sait sa responsabilité dans cet engagement. Merci de nous avoir appelé des Kananga. Benjamin, vous êtes à Isiro. Benjamin, bonjour.
Merci, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Benjamin.
Ça va. Plutôt, au lieu de. Merci d'avoir pris la parole accordée. Je voudrais un peu réagir par rapport à l'auditeur qui m'a précédé. Lui, il a dit que le gouvernement ou encore l'État ne prend pas en charge les jeunes. C'est plutôt ces jeunes-là, eux-mêmes, doivent prendre, se soucier de se prendre en charge des livres, des livres tels que les livres de Semaine Jova. Et surtout, j'apprécie beaucoup les gens de Semaine Jova parce qu'ils ont un livre-là qui s'intitule Les jeunes s'interrogent. Donc, plusieurs fois, on a l'habitude de lire. Par exemple, les jeunes s'interrogent, là, il y a 9 parties. Là, on parle de l'autre sexe, changement physique, l'amitié, école et vos camarades, l'argent, vos parents, vos sentiments et loisirs, et votre croissance spirituelle. Ces livres-là aident beaucoup aussi les jeunes.
Oui, Benjamin. Benjamin, mais ça va être limité. Tous les jeunes n'ont pas la croyance de une même croyance religieuse. Chacun a sa croyance religieuse. Si vous demandez à tous les jeunes de lire un livre d'une croyance religieuse, celui qui n'est pas partisan d'une telle croyance ne peut pas lire ces livres-là. Mais d'une manière globale, il faut quand même parvenir à encadrer les jeunes. Et comment, même si vous dites que les jeunes ne lisent pas, mais qui va mettre les livres à leur disposition, Benjamin?
dans c'est partout, même là où vous parlez, il y a beaucoup de ces livres-là, ça peut aider beaucoup les jeunes. Non, moi, je peux inviter ces jeunes-là d'être des bons lecteurs, de lire ce livre, ça peut aider.
Merci, Benjamin. Vous conseillez les jeunes à lire les livres, mais vous pensez sur un seul livre, mais comme je le disais encore, si la croyance religieuse n'est pas, on n'est pas convaincu, ça sera difficile qu'on puisse lire un livre qui n'appartient pas à sa croyance religieuse. Merci, vous êtes à Isiro. Nous allons prendre Franklin qui est en Suisse. Franklin, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot.
Si vous avez suivi depuis le début de l'émission, beaucoup d'auditeurs ont accusé l'État, que l'État ne s'occupe pas de l'encadrement des jeunes. L'expérience de là où vous vivez, vous êtes en Suisse pour le moment. Est-ce que c'est seulement le problème de l'État pour encadrer les jeunes ou bien c'est un problème qui concerne la société dans sa globalité, le problème de l'encadrement des jeunes?
Oui, je crois que le problème de l'encadrement des jeunes, c'est un problème complexe qui demande aussi beaucoup de stratégies. Pour le cas de la République démocratique du Congo, il faut peut-être d'abord signifier que notre État a quand même une certaine bonne part de responsabilité, mais nous devons aussi nous dire avec la sincérité qu'il faut que l'encadrement des jeunes n'est pas seulement un problème de l'État. L'encadrement commence d'abord au niveau des familles. On peut l'étendre au niveau des quartiers, puis au niveau des communes. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on peut aussi arriver quand même à faire quelque chose. Moi, quand j'étais encore jeune, entre 11 ans et 17 ans, pendant les vacances, on organisait pour nous des colonies de vacances. Il y avait des tournois de football qu'on pouvait organiser, il y avait des jeux de compétition, il y avait des jeux de cartes, on organisait des petites promenades avec des aînés de notre quartier. Et la philosophie de cet entraînement était qu'ils voulaient profiter de l'occasion pour nous donner aussi certaines bases morales, quoi. Bon, de nos jours, à cause de l'instabilité socio-économique, toutes ces structures n'existent presque plus. Bon, je sais, nous devons nous dire en toute sincérité que ça demande un peu de bonne volonté seulement pour encadrer les jeunes, mais je ne crois pas que ça nécessite seulement de l'argent. C'est vrai que l'argent joue un très grand rôle, mais pour encadrer les jeunes, pour organiser un tournoi dans un quartier, on n'a pas seulement besoin de millions, c'est question de se trouver 10 dollars. On s'achète des balles ou quelque chose comme ça pour organiser 3-4 équipes pour organiser des tournois. Bon, c'est vrai que chez nous, ça ne fonctionne vraiment plus. L'État doit s'interpeller, mais je souhaiterais aussi qu'au niveau des quartiers, au niveau des communes, qu'il y ait aussi des structures pour encadrer des jeunes. Parce que si on doit toujours accuser l'État, mais l'État c'est qui? L'État c'est l'ensemble des citoyens. Si moi j'accuse l'État, vous accusez l'État, mais l'État en question c'est qui maintenant?
Mais
si vous ne voulez pas prendre des responsabilités, moi non plus je ne veux pas.
Franck, à partir de l'expérience de là où vous êtes, peut-être dans deux minutes, vous pouvez dire, présenter aux auditeurs l'expérience de milieu où vous vivez, comment on s'en prend pour encadrer le jeune, parce que vous êtes les derniers auditeurs, peut-être dans une minute et demie, expliquer un peu par l'expérience de là où vous vivez.
Bon, c'est généralement aux environs des grandes vacances d'été, il y a toujours des offres, il y en a qui peuvent aller en pèlerinage, il y en a qui peuvent aller faire une expérience quelque part. Bon, on fait des affiches, qui veut faire quoi? Alors, les parents doivent inscrire leurs enfants, on vous donne les modalités de paiement, on vous explique ce qui aura à faire, quoi. S'il faut se déplacer, il faut aussi qu'on trouve des gens pour aller encadrer, surtout s'il faut qu'on se déplace avec des mineurs. On doit même avoir des gens pour aller encadrer, puis il y a toujours un programme, quoi. Donc, ici où je me trouve, ça fonctionne convenablement parce qu'il y a des structures en place. Mais je crois que ce sont des structures qui existent également chez nous, mais c'est seulement question de les réhabiliter. Donc, il y a des offres, il faut toujours penser avant le début des vacances, on essaie un peu d'élaborer un programme, puis on les présente au public pour être adopté ou pas. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Soit ce sont des semaines d'enfants, soit ce sont des jeunes qui vont dans une pèlerine, qui peuvent se déplacer, aller visiter une ville ou un truc comme ça, quoi. Donc, il y a tellement d'offres dont on peut parler, mais il n'y a pas seulement dans un seul cadre, quoi.
Merci, Franck. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous avez appelé de la Suisse. Nous remercions Trésor Bangala et Sylvain Massirika. Ils n'ont pas eu l'occasion d'être alignés en direct sur les antennes. On vous remet la parole, monsieur Henri Mola, parce que nous allons clôturer cette émission. Concrètement, par rapport à votre expérience, les inquiétudes des uns et des autres, quelle procédure faudrait-il aujourd'hui adopter pour parvenir à encadrer les jeunes? Et parce que là, on termine l'émission.
Alors, merci Pierrot. Je pense que pour conclure cette émission, nous devons nous dire ceci. Si nous voulons vraiment réussir l'encadrement des jeunes, nous devons avoir un programme national d'encadrement de la jeunesse. Ça, c'est très important. Et ce programme, ce n'est pas un individu qui doit l'élaborer, ce n'est pas une église qui doit l'élaborer, mais c'est l'État. Parce que c'est l'État qui détermine quel type de jeunes nous voulons avoir dans notre pays. Si on détermine ce programme national, maintenant on confie à ceux qui gèrent la jeunesse, les écoles,
les
associations, et chacun maintenant essaye d'adapter ses programmes à sa vision des choses. Mais il faut qu'il y ait d'abord ce programme national. Ensuite, nous devons demander à l'État d'être un peu regardant sur l'éducation. Parce que tout le monde l'a reconnu, l'État a vraiment démissionné. Et quand ce sont les individus ou quand ce sont les associations qui organisent tout et que l'État est absent, il y a toujours un petit danger. Parce que l'association ou l'individu amène la jeunesse dans la direction où il veut. Alors que c'est l'État qui devrait amener la jeunesse dans une direction.
Voilà, merci. On ne saura pas continuer. C'est par là qu'on termine cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les auditeurs qui ont suivi cette émission et ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les antennes. Ça n'est fini aujourd'hui. On se retrouve avec vous lundi prochain pour parler d'autres choses. Vous savez, de plus en plus dans la ville de Kinshasa et ailleurs, en RDC, les transports en commun devient un véritable casse-tête. Hein. Avoir un taxi, monter à bord d'un bus aujourd'hui, c'est un problème sérieux qui se pose dans notre société. Comment les transports en commun est-il organisé dans votre milieu? Quelles solutions préconisez-vous pour faciliter au Congolais l'accès aux transports? Et ajoutez à pa@kapi.fr le thème de lundi prochain. Merci de nous avoir suivis et surtout bon week-end à tous en compagnie de Radio Okapi.